We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Bonjour à tous, Dominique Restino sur We do biz, la radio des TPE PME pour We Move J, l'émission où les jeunes aiment créer ou reprendre des entreprises. Et là, cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir un jeune entrepreneur dans une activité plus classique. C'est le bâtiment. C'est notre ami Ahmed Akaboun de Greenface. Et toujours pour accueillir notre star de la semaine, nous avons notre grand ami, entrepreneur, grand témoin du mois, Stéphane Bobo, président fondateur de Modelabs. Bonjour Stéphane, comment vas-tu cette semaine?
Très bien Dominique.
Très bien. Alors là, cette semaine, on va recevoir notre ami, et on reçoit notre ami Ahmed Akaboun de Greenface. Avant de commencer avec toi Ahmed, bonjour Ahmed.
Bonjour Dominique, bonjour Stéphane.
On va, si tu le veux bien, venir un petit peu titiller et poser des questions à notre grand témoin du mois. Et là, ce que j'aimerais savoir, Stéphane, j'avais une petite question pour savoir, au point de vue de ton activité. Tu es aujourd'hui avec nous ici, tu es parfois de l'autre côté du monde, en Asie, tu es en train de prévoir ou d'activer des choses à la minute où on parle, et en même temps de prévoir ce qui va se passer dans l'avenir de Modelabs. On fait ça comment?
Ouais, t'es très sérieux, ça me fait peur.
Ouais, je suis un peu sérieux, mais tu sais, c'est la fin de l'année. Il s'est passé beaucoup de choses
de Noël.
En 2010. Et avant de fêter le joyeux Noël, non, tu rebondis en permanence. Donc je pense que pour l'année prochaine, ça va être génial. On t'écoute.
Non, c'est vrai que la période de Noël est pour nous une période hyper excitante, parce que c'est vrai que c'est une période de cadeaux, c'est une période de fêtes. Donc
messieurs, si vous avez envie de faire plaisir à votre charmante épouse, vous avez chez Modelabs les superbes téléphones de grandes marques de luxe. Alors effectivement, faut craquer un petit peu d'argent, parce que le moins cher c'est 5 000 et le top, et donc là pour madame, vous allez prendre le top, c'est 30 000.
Ouais, mais tu sais, dans la vie, il faut se faire plaisir.
Exactement. Nous sommes d'accord avec toi.
Donc voilà, nous, écoute, on est en pleine fête là, et c'est vrai que ça bat son plein, parce que pour nous, c'est toujours une période très importante. On vend nos produits de luxe dans une cinquantaine de pays dans le monde, et c'est vrai que c'est une période extrêmement importante pour nous. Et on est en train de préparer aussi plein de fantastiques produits sur l'année prochaine.
Mais ça se vend plus où? En France, en Asie, aux États-Unis, ces produits de luxe?
Alors, l'Asie est un marché extrêmement fort. Ça représente déjà plus de 40% de notre chiffre d'affaires.
Ah oui. Ils sont un peu plus nombreux, remarque. Hein.
Ils sont plus nombreux, oui. Et puis, ils sont en pleine croissance.
Ouais. Et puis, ils ont envie.
Donc, ça aide.
Ah,
voilà.
Ils ont envie
de se faire plaisir. Ils aiment les produits de luxe et les nouvelles technologies. Donc l'Asie est un marché extrêmement fort pour nous, la Russie aussi, les pays de l'Est, et puis le Moyen-Orient qui est extrêmement friand aussi de
D'accord, donc nous il nous reste nos yeux pour pleurer si je t'écoute là.
Non mais les gens adorent faire du tourisme en Europe et voilà, et en fait l'Europe marche beaucoup avec le tourisme sur les produits de luxe, et on aime bien les accueillir et voilà, leur offrir des produits fantastiques.
Super. Alors Ahmed Akaboun, Greenface, c'est quoi?
Alors Greenface, c'est une entreprise qui a été fondée en février 2008. C'est une entreprise de bâtiment tout corps d'État. On fait de la construction et de la rénovation écologique.
Carrément.
Voilà.
D'accord. Alors c'est quoi écologique?
Alors écologique, c'est que... Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot écologique peut peut-être ne plus vouloir rien dire, parce qu'on le voit un peu partout, le mot bio, etc.
Un peu galvaudé. Nous, hein.
Comment?
C'est souvent un peu galvaudé.
Exactement. Moi, je peux voir des bics bio, je me demande en quoi les bics peuvent être bio. Donc nous, c'est vrai qu'on a essayé d'orienter notre...
Les bics du bar en bic?
Non, les bics, les rasoirs bics.
Ouais, d'accord. Bar en bic. Non, d'accord.
Bar en bic. Exactement. Donc nous, on a essayé d'orienter notre thématique sur la santé.
C'est des rasoirs qui rasent pas, peut-être.
Bon, en tout cas, donc nous, notre thématique, on l'a orientée sur la santé. C'est-à-dire que notre démarche sur la plupart des produits qu'on va utiliser, on va améliorer le quotidien et le côté sanitaire de l'environnement dans lequel on évolue. On considère qu'on évolue dans un environnement qui est pollué toute la journée, au moins les 8 heures ou les 10 heures, on est à notre domicile, qui soit complètement sain. Pourquoi est-ce qu'on s'est orienté vers cette thématique? C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont plus orientés vers l'énergie, panneaux solaires, photovoltaïques, etc. Mais Moi, je pense que c'est peut-être un débat qui est un peu prématuré, voire un faux débat, dans le sens où il y a tout de suite ce rapport par rapport à l'aspect financier de la chose, c'est ce qui a pu attirer les gens. D'ailleurs, je crois que EDF a quelques soucis par rapport à ses éoliennes, où ils les rachètent plus cher que ce que ça ne leur coûte. Ou bon voilà, donc on voit tout de suite qu'on a.
Je crois qu'ils sont en train de changer de tarif aussi. Hein,
voilà, et ils rehaussent leur tarif à cause de ça. Donc on voit tout de suite
où ils rémunèrent moins.
Voilà, bon, en tout cas il y a eu un réel loupé là-dessus.
Mais c'est un peu toute l'hypocrisie sur le modèle écologique. Hein, c'est que s'il y a un vrai bénéfice financier, les gens se trouvent d'un coup très écolo et prêts à consommer de l'écologie. Bon, quand il y a moins le bénéfice financier, bon c'est vrai qu'on est un peu plus réticent. Et, ouais. Et c'est pour ça que je comprends l'évolution du discours sur une approche qui est beaucoup plus peut-être portée sur des bénéfices qui sont liés à la santé, parce que là on est beaucoup plus prêt à investir que simplement sur un bénéfice écologique.
Tout à fait, c'est ça. Et donc c'est vrai que pour aujourd'hui, nous, notre grosse difficulté justement, c'est de faire évoluer les mœurs pour que les gens valident ces travaux-là. On les comprend pas spécialement et dans certains cas, j'ai faites-moi exactement la même chose avec 20% plus cher parce que l'écologie c'est plus cher. Mais voilà. Donc.
Alors cette société, tu l'as créée quand ?
En février 2008.
En février 2008, et il y a combien de personnes aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on est 4 salariés.
Oui.
On a toute la partie externalisation, donc toute la partie exécution, on peut monter à une quarantaine de personnes.
D'accord, donc là tu prends des sous-traitants pour effectuer certains travaux.
Sous-traitants où on met en gestion des intérimaires. Donc nos salariés
également
sont mis en gestion dans une boîte d'intérim.
D'accord.
Ce sont pas des emplois directs, mais indirects.
Enfin, ils travaillent quand même les gens,
mais ils travaillent. D'accord. Mais quand je dis indirect, c'est qu'ils font pas partie de la structure.
D'accord, entendu. Et c'est étonnant quand même, Stéphane, dans ce parce qu'il y a Ahmed. Quel âge tu as, Ahmed ?
24 ans.
24 ans. D'accord. Et ça fait 2 ans, donc il est 22 ans quand il a créé cette société. Généralement, on crée les entreprises quand on a 22, 23. Enfin, on pense tout le temps aux nouvelles technologies souvent. La semaine dernière, tu faisais référence justement avec Fago à lancer un produit, enfin lancer une entreprise avec un produit, je dirais, qui existe déjà, les tennis Fago, les baskets Fago. Là, avec Ahmed, c'est une entreprise dans le domaine du bâtiment. C'est assez classique, même s'il y a un discours,
oui, et en tout cas une démarche. Il a aussi une approche. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est souvent de prendre des secteurs qui sont extrêmement basiques, dans lesquels il n'y a pas de vraie réflexion d'organisation, marketing, commercial. Et je crois que son approche est assez différenciante de ce point de vue-là. C'est qu'il est un vrai coordinateur avec différents sous-traitants et sa capacité à gérer différents corps de métier avec une approche justement pas écologique, mais avec des produits sains, qui est très différenciante, parce qu'aujourd'hui on a où les mastodontes de la rénovation qui sont des grands groupes et qui vont pas s'occuper du particulier mais sur des gros programmes, où on a l'artisan complètement indépendant qui n'a pas d'activité commerciale ou marketing, et c'est là où il a compris la fenêtre d'opportunité de se situer
c'est là où se joue son innovation.
Exactement, et de pouvoir coordonner tous ces acteurs, ces petits acteurs artisans qui n'ont pas le relais commercial et marketing pour remplir parfaitement leur emploi du temps.
D'accord, mais si mes souvenirs sont bons, tu viens pas du monde du bâtiment ?
Absolument pas.
T'as fait quoi comme t'as une formation ?
Alors j'ai une formation au départ, j'étais à Assas en éco-gestion, donc je me dirigeais comme la plupart de mes camarades à un parcours assez classique dans le monde de la finance ou à rejoindre peut-être une société ou je ne sais pas, mais je me dirigeais vers un parcours classique. Et quand j'étais en deuxième année à Assas, là j'ai rencontré une personne. Ça a été vraiment suite à une rencontre que j'ai eu aussi envie de créer cette société.
C'est souvent des histoires de rencontres, l'entrepreneuriat, Stéphane.
Ah oui, ouais. Tout le temps.
Qui m'a vraiment montré les bienfaits et l'importance de cette notion de la santé au niveau de l'habitat. Et là, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. La France, c'est un pays qui a quand même un retard qui est colossal par rapport aux pays allemands, scandinaves ou même l'Espagne. On est en retard par rapport à des pays comme l'Espagne. Le secteur du BTP, c'est un secteur qui ne peut pas être en crise malgré ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il peut pas être en crise ? Parce que c'est un produit qu'on peut pas délocaliser. On a une population qui croît, donc forcément, on a besoin de nouveaux logements ou de réhabiliter ceux qui existent.
Il faut juste avoir un peu d'argent pour payer les travaux quand même.
Je suis d'accord, mais on a quand même besoin de, on a besoin de se loger.
Ah, tu sais, vu le prix de l'immobilier, t'as envie un peu d'investir pour faire de la rénovation.
Oui, je suis d'accord.
Voilà. Et malgré tout, quand on entend qu'il y a une perte de 3% sur le marché, il reste quand même 97%.
C'est un bon calcul, ça.
Donc, d'accord. C'est vrai, il faut toujours voir les choses du...
Positivement, tu as raison.
Mais c'est voilà. Ça qui est génial, ouais, avec la création d'entreprise.
Exactement.
T'as peur de rien.
Et en plus de ça, par rapport à cette crise, je me suis dit que c'était peut-être une opportunité, dans le sens où c'est un marché qui est quand même pénurique. Moi, pour trouver des hommes, pour travailler, c'est extrêmement dur. C'est difficile. Donc, comme on a eu cette crise, donc j'ai eu plus de gens, entre guillemets, sur le marché du travail, et j'ai pu recruter ces gens-là à des tarifs plus abordables. J'avais aussi plus d'entreprises qui avaient peut-être un petit peu moins de travail, donc qui pouvaient travailler à des prix, disons, plus corrects. Donc ça a été un atout, finalement. Cette période aussi a été un atout. Donc, pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans et pourquoi à cette époque alors que je me dirigeais vers de la finance? Et puis c'est un milieu qui m'a le milieu de la finance aussi, peut-être des études, etc. De ce que je voyais déjà à mon époque et à mon échelle, c'était quelque chose qui ne me plaisait pas. Bon, aujourd'hui, je vois, j'ai l'impression de créer de la richesse, de créer quelque chose, de créer un contact, de créer un rapport avec l'autre. Alors que dans le monde de la finance, moi je vois aujourd'hui mes amis quand ils me disent, je fais de la fusion acquisition ou je fais ça, c'est un peu le même discours. Je spécule sur des produits où je fais ci ou je fais ça.
Donc, tu vois, dans une époque où on vit dans la techno et dans la dématérialisation, je comprends cette envie de retourner vers des choses extrêmement concrètes. Et c'est vrai que dans le bâtiment, t'as rien de plus concret, quoi.
C'est très concret.
C'est très concret.
Et alors, de cette idée, tu parlais tout à l'heure, Ahmed, de cette idée de créer une entreprise avec ce regard propreté où on fait attention à l'autre en même temps. Et la création de la société, c'est passé combien de temps?
8 mois.
8 mois.
8 mois. Le temps de faire mûrir le projet.
Oui. On revient toujours à faire mûrir le projet.
Voilà. Il faut le préparer. D'un autre côté, moi, la réflexion du projet, elle a vraiment eu lieu une fois que la boîte a été créée.
Ah oui. Donc tu crées.
C'est-à-dire que j'ai eu mes premiers contrats.
Oui.
La boîte n'était pas créée. J'ai créé ma société. Une fois qu'elle était là, j'ai eu cette période où j'ai observé. Je ne suis absolument pas du milieu du bâtiment. Je savais qu'il y avait quelque chose à faire. Je savais où je voulais arriver, mais finalement le comment je l'ai appris.
On va dire que
sur le terrain.
Miraculé alors.
C'est miraculé.
Sur le bâtiment. Sur le terrain. C'est bien sûr que j'ai préparé le projet. J'avais
un business plan.
Voilà, et tout ça c'était présent. Mais aujourd'hui, entre l'orientation, au départ quand j'ai monté cette société, ce que je voulais faire et ce que je fais aujourd'hui, je peux pas dire que c'est la même chose. J'ai forcément dû m'adapter, et puis la première année ça a été une année d'observation pour moi. C'est une année où j'ai vu, où j'ai pu réajuster le tir. Pourquoi est-ce que je me suis dirigé aussi vers cette, pourquoi est-ce que j'ai externalisé toute cette partie exécution? C'est aussi après la réflexion de cette première année. Pourquoi est-ce que je me suis orienté vers tel et tel type de marché, vers tel ou tel type de clientèle? C'est suite à cette première année. Je n'avais pas cette expérience.
C'est le côté pragmatisme de l'entrepreneur.
Mais c'est quelque chose d'essentiel. Enfin, je veux dire, le succès, ça passe essentiellement par le fait d'être capable de s'adapter continuellement sur son marché. Je veux dire, on peut pas rester avec des idées préconçues en disant c'est comme ça que ça doit se passer et puis ça va se passer comme ça, parce que ça se passe jamais comme ça.
Ça se passe jamais comme on l'a prévu. À bon entendeur, salut. Ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. Alors, donc une petite année pour créer Greenface. Là, il y a 3-4 personnes. Pendant cette année de préparation, qu'est-ce qui a été compliqué? Ça a été quoi les premières barrières ou les plus grandes barrières?
Alors, les plus grandes barrières, c'est que j'arrive dans un milieu qui est quand même assez dur d'accès.
Oui.
Je n'ai absolument pas la tête de l'emploi. Quand on a 20 ans, moi j'ai une entreprise de bâtiment, on vous rit au nez, que ce soit au niveau des assurances, au niveau des banques. C'est un secteur qui fait peur. Et le plus dur, ça a été aussi la gestion de l'humain, et ça l'est toujours. Parce que c'est des gens qui ont un caractère.
Pourquoi ça l'est toujours?
Parce que les gens qui sont bons et compétents, c'est des gens d'expérience, qui savent gérer des bonhommes, et donc il faut savoir les gérer aussi.
Donc c'est la problématique de la gestion transgénérationnelle.
Énormément. Moi j'avais des salariés, j'étais plus âgé que leurs enfants. Et il fallait que, donc je disais pas mon âge, j'ai la chance de faire plus âgé, Donc je leur disais pas spécialement mon âge, mais après, quand ils l'apprenaient, j'avais droit à des réflexions, qui étaient assez marrantes et qui fait partie de ce milieu-là. C'est un milieu qui reste quand même assez fermé, les gens sont durs. C'est un milieu plus authentique, plus concret, certes, mais ça a quand même ses barrières.
C'est pas facile dans le bâtiment. Pourtant, on dit que dans le bâtiment, tout, quand le bâtiment va, tout va bien.
Bah, c'est, l'humain est dur. L'humain est dur. L'humain peut faire des choses exceptionnelles, mais il peut aussi être très dur dans nos métiers.
Dans toutes les entreprises, enfin, l'humain est quelque chose d'extrêmement compliqué. Hein. Au début, on se préoccupe du business, et puis ensuite, c'est l'humain. Hein. C'est gérer la croissance avec les équipes.
Mais pourtant, c'est ce qui fait la clé de notre réussite aujourd'hui. Mmh. C'est l'humain.
Alors aujourd'hui, là, ça fait combien ça fait un an, deux ans d'activité?
Ça va faire trois ans en février.
Trois ans en février. Donc il y a deux bilans qui sont sortis?
Tout à fait.
Et là aujourd'hui, c'est 4 personnes, c'est combien de chiffre d'affaires?
Alors la première année, on a fait un peu moins de 70 000 euros de chiffre.
Oui.
On a fait une perte d'un peu plus de 20 000 euros.
Donc là, c'était le début.
Voilà, c'était le début. J'avais un capital de 500 euros. Je voulais année d'observation, donc je voulais pas prendre de risque.
Oui.
Et donc la deuxième année, on a fait un peu moins de 300 000 euros.
Ah, quand même.
Un résultat de 4 000 euros. Et cette année, on a 4 salariés.
Oui.
Moi, j'ai arrêté mes études cette année. Donc pour l'année 2010, on sera pas loin des 800 000 euros de chiffre,
oui.
Avec un résultat qui devrait être entre 70 000 80 000 euros. Je sais pas encore le chiffre exact.
Donc toi, t'es un entrepreneur qui est heureux, qui se développe, qui gagne sa vie, parce que tous les entrepreneurs au départ ne se rémunèrent pas. J'ai l'impression quand même qu'avec tout ça, tu dois te rémunérer quand même.
Bah, je me verse un salaire depuis peu de temps.
J'arrive
à en vivre aujourd'hui.
Ok. Là, on a vu que pendant 8 mois, 1 an, tu avais préparé tout ça, les complications qu'il y avait eu au départ. À aujourd'hui, ta vraie satisfaction, voilà, si tu avais une anecdote sur un coup qui a été un vrai plaisir pour toi depuis que tu as créé ton entreprise.
Donc un coup où j'ai pris mon pied.
Voilà, par exemple, voilà, là où tu as pris ton pied. Ouais, soyons clairs.
Bah là par mon nez on est sur un appel d'offres,
oui.
Où on nous a contacté c'est pour un monument historique et c'est vrai que quand on nous a contacté, donc même pas 3 ans d'existence, pas de qualification spécifique ou quoi que ce soit, et on veut travailler avec nous et pour nous, et on demande
on est en concurrence, c'est le début du succès.
On est en concurrence avec une filiale d'Eiffage et une énorme société, et on a été retenu en 2011
parce que c'était moins cher,
moins sûrement.
Peut-être.
Je peux pas te dire le pourquoi du comment, mais
j'ai
été surpris. Et pourtant, c'est des marchés auxquels on n'a pas encore spécialement accès. Et aujourd'hui, on s'oriente vers ce type de marché. Et aujourd'hui, c'est une satisfaction qui, ça m'a fait plaisir.
D'accord. Super, Ahmed. Alors, dans les bonnes nouvelles, je vous propose de retrouver Bénédicte du MoveJ pour le focus du MoveJ.
Eh bien, bonjour Dominique, bonjour Stéphane et bonjour Ahmed. Eh bien, cette fois-ci, c'est un peu différent. J'ai pas envie de bosser. Ça m'arrive pas tous les jours. C'est la fin de l'année. Donc, on va parler de Noël et de la nouvelle année. Alors, en vous écoutant les jeunes entrepreneurs au quotidien, j'ai eu le sentiment que vous n'auriez pas trop le temps de faire votre liste pour le Père Noël. Donc, nous avons décidé aujourd'hui de vous proposer une petite liste à envoyer. Alors, cher Père Noël, pour cette année, je voudrais des journées de 36 heures, une pilule qui empêche de dormir, un aimant à client, un banquier qui prête de l'argent, un bureau spa, j'en ai bien besoin, et des salariés 10 fois meilleurs que moi. J'espère, cher Père Noël, que vous accéderez à mes désirs. Et puis, pour la nouvelle année, c'est le temps de prendre de bonnes résolutions. Donc voici aussi quelques pistes pour prendre ces résolutions. Cette année, en 2011, c'est juré. Tous les soirs, quand je rentre, je dis bonsoir à mon copain et ma copine avant de lui parler boulot. Ensuite, j'essaie de dormir au moins 4 heures par nuit et de faire un vrai repas plus de 3 fois par semaine. J'appelle mon banquier au moins une fois par mois. Et surtout, je dis à mes copains que mon Facebook est devenu pro. Et dernière chose, j'essaie de donner moins de 200 tâches par jour à mes collaborateurs. Voilà, c'était quelques petites idées. Et puis surtout, le MoveJ, pour vous, on vous souhaite d'oublier pendant 2 grandes et belles soirées vos boîtes et de faire la fête. Très bonne année, à l'année prochaine.
Voilà, super, merci Bénédicte. À bientôt sur les ondes de WeDoBiz. On revient à Ahmed Akaboun, le fondateur de Green Face, l'entreprise de bâtiment qui s'occupe de ceux qui construisent, de ceux qui vont vivre dedans. Enfin, c'est pour le bien-être de tout le monde, si j'ai bien compris, à travers Green Face.
Présenté comme ça, ça fait assez altruiste. Oui. C'est pour.
C'est pas ton cas. Unique,
comment
Frédéric. C'est pas ton cas.
Bah, c'est, je, en tant qu'entrepreneur, être altruiste, c'est. Je pense pas que ce soit le terme qui soit adapté. On est là, on est honnête, on fait notre travail, mais.
Ah, tu sais quand même qu'il y a plein de gens qui pensent que les entrepreneurs, c'est pas forcément honnête.
C'est pour ça que je dis ça. Donc, mais il faut pas non plus les faire passer pour des altruistes parce que c'est pas le cas.
D'accord.
Sinon, je monte une association à but non lucratif.
D'accord. Là, mais c'est bien aussi les associations à but non lucratif.
Très bien. J'en connais une qui est très bien.
D'accord. Okay. Alors, Stéphane, qui est dans une activité qui n'est pas une association à but non lucratif, Model Apps.
On essaye de en faire profiter tous nos actionnaires. Hein.
Alors là, si ta réaction un petit peu par rapport à ce que fait Ahmed.
Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi je trouve ça fabuleux de pouvoir entreprendre dans des industries extrêmement matures, dans lesquelles on parle encore aujourd'hui beaucoup de nouvelles technologies et on pense que l'innovation ne passe que par les nouvelles technologies. Je trouve ça très intéressant de voir que sur des métiers traditionnels, c'est encore possible d'entreprendre quand on est jeune.
Absolument.
Et qu'on n'a pas besoin d'avoir fait toute sa carrière dans le bâtiment pour décider de créer une entreprise. Et justement d'arriver quelque part avec un peu de naïveté, mais qui apporte une fraîcheur, je dirais, dans un environnement. Oui, et puis sur les business models et sur la manière de fonctionner et du recul où voilà, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir innover dans ce domaine.
Alors justement, Ahmed, ce qui va m'intéresser maintenant, ce qui peut intéresser nos auditeurs, bien sûr, ce qui va intéresser nos auditeurs, c'est le parcours. Pourquoi créer une entreprise? T'es en train de faire des études. Qu'est-ce qui t'amène à imaginer créer une entreprise?
Je crois que depuis que j'étais petit, c'était quelque chose que j'avais envie de faire.
Bah c'est en même temps depuis que j'étais petit, c'était il y a pas longtemps quand même.
Oui, mais quand je dis petit, c'est vrai, j'étais vraiment.
T'es tout petit, d'accord. Vraiment tout petit. Dans l'œuf déjà.
Non, mais je dis j'avais peut-être moins de 10 ans et qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie?
Ta famille, c'est une famille d'entrepreneurs?
Famille d'entrepreneurs, on peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Et pour tout. Ouais, famille d'entrepreneurs. Et
vas-y, tu veux t'aller dire pour tout dire, vas-y, je t'écoute.
Comment?
Tu allais dire pour tout dire, vas-y.
Non, c'est que j'ai une partie qui est beaucoup plus conventionnelle et institutionnelle, une partie qui est beaucoup plus entrepreneur.
D'accord.
Voilà. Et donc on a vraiment les deux. Et c'est vrai que quand j'avais moins de 10 ans, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et bah, je disais businessman.
Businessman.
Ah bah. Et c'était fait. Pas. Et bon.
Ouais, location.
Et c'était quelque chose, je sais pas, j'avais envie de, j'aimais bien entreprendre, j'aimais bien aller de l'avant, et puis dès que j'ai eu l'opportunité, dans mon lycée, je voulais monter des associations, je voulais créer.
Ah, tu vois, on y vient aux associations.
je voulais monter des groupes, et c'est vrai qu'avant de monter Greenface, j'avais déjà entrepris deux, trois essais.
Et quoi, par exemple?
Je m'étais lancé dans le glaçage de souliers.
Dans le glaçage de souliers, Ahmed Akaboun, fondateur de Greenface. Alors, c'est quoi le glaçage de souliers? Explique-nous un petit peu. Alors, ce que c'est, ça.
Je vais vous expliquer. C'est qu'à l'époque, il y avait mon frère qui venait de racheter un artisan soulier, un artisan bottier plus précisément,
oui.
Qui faisait des chaussures à la main sur Paris.
Sur mesure.
Sur mesure, demi-mesure. Il allait à la retraite, il trouvait ça dommage, donc il a repris cet artisan. Et
les métiers d'art français.
Exactement. Et donc moi ça me fascinait parce que je trouvais ça génial, le produit était magnifique. À l'époque j'avais quoi, 18 ans, donc gentiment il me disait, bon ça lui faisait plaisir, mais bon il m'expliquait, mais bon c'était laisse-moi faire en gros. Et
parce que déjà tu voulais lui donner tes conseils, tu voulais l'accompagner dans sa création,
toi. Non, je voulais qu'il me prenne avec lui, je voulais qu'il me prenne sous son aile, je voulais l'aider.
Ah ouais.
Mais bon, c'était parti de là. Et puis j'ai rencontré une personne qui faisait du glaçage de souliers. Qu'est-ce que c'est que le glaçage de souliers? C'était une méthode qu'on utilisait en début du siècle, c'était très habillé. Donc sur le bout de la chaussure et sur le flanc de la chaussure, on le faisait briller. Et il y avait à la poche, il y avait les glaceurs.
Mais c'était glaceur. Où dans la rue, c'était
au Phuket par exemple.
Au Phuket.
Ah ouais, il y avait le glacier, il y avait le glaceur du Phuket. Et c'est quelque chose qui a disparu dans les années 80 et je voulais remettre ça au goût du
jour. Au goût du jour.
Exactement. Et avec un ami que tu connais bien d'ailleurs, Guillaume Lecointre.
Ah, très bien.
Voilà.
Lecointre Paris.
Exactement,
Lecointre Paris. Les meilleurs sandwichs.
Et café.
Et café, absolument.
Et on était, donc on avait établi nos petits, donc il y avait déjà une structure qui était existante. On avait établi une petite stratégie commerciale. Donc on allait dans la plupart des hôtels toquer, on vendait notre proposition parce qu'on voulait reprendre. Donc on avait eu quatre contrats quand même. Le Westin, le Phuket, le Meurice. Quatrième, je me souviens.
Ah ouais, en plus de la grande classe.
Et on allait, démarcher sous la pluie comme ça la journée.
Et comment vous avez décidé d'arrêter?
Alors on a arrêté parce que la personne qui était à la tête de ça était passée à autre chose, ça l'intéressait pas. Nous, ça nous faisait marrer de reprendre ça et de travailler là-dedans, mais bon, après derrière on n'était pas, on la gérait pas cette société. Nous, on l'avait lancé, mais derrière ça a pas suivi. Ça a pas suivi. Et puis après, c'est suite à ça qu'on a monté nos sociétés respectives.
Et alors, c'est quoi le problème que tu as rencontré quand tu veux créer une société dans le domaine du bâtiment? L'argent, tu l'as trouvé comment?
Mais j'avais pas d'argent. J'avais un capital de 500 euros.
500 euros, c'est pas beaucoup pour
voilà,
une boîte.
J'ai voulu, dès que j'ai créé cette société, j'avais déjà des chèques d'acompte sur des contrats à venir.
Oui.
Et j'ai tout simplement travaillé en comptant au départ.
Et d'accord. Les premiers clients, c'était des amis?
Non. Ça a été des amis, des relations, exactement. Ça a été des relations. Ça a été une société. Je savais qu'ils avaient un potentiel, donc je suis allé faire un devis. Bah, j'ai créé cette société. On a le droit de le faire quand c'est en cours de création.
Oui.
Donc, j'ai créé cette société. Et au moment où ça a été validé, où j'ai eu mes premières commandes, bah, je suis allé créer cette société. Pourquoi est-ce que j'ai attendu? Pourquoi est-ce que j'ai fait comme ça? Je voulais minimiser les charges. Le temps aussi où bah créer une société tout de suite on fait courir
de faire monter la mayonnaise bien
exactement.
Sûr
exactement depuis de m'organiser un minimum puis d'aller voir une banque avec des chèques
oui
ça le joue aussi parce que quand on a un capital qui est un peu qui est limite même c'est pas forcément bien vu donc on a et puis surtout je voulais surtout pas de salariés minimiser vraiment les charges fixes au possible d'où cette période d'observation donc certes j'ai peut-être mis un peu plus de temps qu'en ayant des investissements, en ayant investi de l'argent, mais en tout cas, je pense avoir pris le temps de me développer tout en étant libre chez moi finalement.
D'accord. Et le regard par rapport aux banques, ça a fonctionné comment avec les banques au départ?
Au départ, j'y suis allé et j'ai eu donc déjà j'ai fait plusieurs banques. J'ai trouvé une banque qui a bien voulu de moi. Mais au départ, ce que j'ai vendu surtout à la banque, c'est que j'ai vendu un projet. Je me suis vendu moi avant de vendre une société.
Et ça a marché.
Faut croire.
D'accord. Non, mais on entend toujours que les banquiers, s'il n'y a pas un dossier hyper pointu, hyper verrouillé dans tous les sens.
Non, au début, j'arrivais aussi.
Comme quoi, faut quand même se vendre chez le banquier.
Il faut y aller. Il faut lui dire, voilà, moi, je fais ci, moi, j'ai tel parcours, j'ai la capacité de faire tel et tel projet, tel et tel business, voilà mon business plan. Et j'étais dans un domaine qui était super novateur à l'époque, le domaine de l'écologie, tout le monde en parlait. Il y avait le Grenelle de l'environnement qui a eu lieu au mois d'octobre.
Et tu surfais sur la vague, là.
Et pourtant, j'étais là avant le Grenelle de l'environnement.
Super.
Parce que la boîte a été créée en février, mais le projet a commencé à songer au projet avant finalement ce Grenelle de l'environnement. Et donc c'est peut-être ça aussi qui l'aura.
Mais tu vois, comme tous les projets, c'est aussi souvent des questions de timing. C'est d'arriver au bon moment. Des bonnes idées trop tôt.
Oui.
C'est pas forcément une bonne idée.
Surtout quand c'est une idée nouvelle, une idée créative.
Exactement.
Effectivement. C'est pour ça que souvent on dit, effectivement, sur un marché où il y a beaucoup de concurrence, c'est compliqué, mais c'est qu'au moins il y a un marché. Un marché nouveau, ben ça peut être avant, ça peut être un petit peu après.
Ouais.
Voilà. Alors, on arrive à la fin de cette émission. On arrive à la fin de cette émission, mais en même temps, on arrive à la fin de ce mois, de ces émissions avec toi, Stéphane, qui nous a accompagnés pendant ces 4 semaines. Tu étais le premier grand témoin de l'émission WeMoveJ sur WeDoBiz. Et sincèrement, un grand merci à toi.
Merci à toi de m'avoir invité.
On souhaite pour cette fin d'année beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes de téléphones pour Noël. Merci également à Ahmed Akaboun, fondateur de Greenfest. On lui souhaite de belles fêtes également de fin d'année. Je vous souhaite à tous, auditeurs, Bénédicte, merci également, Bénédicte de Mouvji, merci. Et je vous souhaite à tous et à toutes, et je souhaite également à We Do Biz une excellente fête de fin d'année. Je vous dis à dans 15 jours, puisque là, effectivement, il y aura une petite semaine de repos pour tout le monde. Et je vous retrouve sur We Do Biz, l'émission et la radio des TPE-PME, maintenant, l'année prochaine. À bientôt. Merci encore pour votre écoute.